Le père Bernard Mendibour s'est éteint à l'âge de 83 ans à la maison de retraite jésuite de Pau le 26 janvier 2022. Ses obsèques ont été célébrées à Pau le 31 janvier. Le père Bernard Mendibour était originaire d'Asparin. Il fut un temps rédacteur en chef de la revue Christus. Il avait écrit notamment « Lire la Bible avec Ignace de Loyola » et il a longtemps œuvré avec l'équipe de Cotopaïs. Pour lui rendre hommage, nous avons retrouvé dans nos archives cette conférence enregistrée à la maison diocésaine de Bayonne le 26 novembre 2010 avec saint Ignace de Loyola, écouter la parole de Dieu et faire de ma vie une réponse. Voici donc cette conférence du père jésuite Bernard Mendibour enregistrée le 26 novembre 2010 à la maison diocésaine de Bayonne avec saint Ignace de Loyola. Écouter la parole de Dieu et faire de ma vie une réponse.
Je suis originaire du Pays Basque, comme mon nom l'indique, et j'ai pas mal encore de parents et d'amis, bien sûr, dans la région. Je suis né à Asparin, et j'ai surtout vécu au Boucaux et à Bayonne, où habitaient mes parents. Après 3 ans de séminaire à Bayonne, donc la maison à côté, que je connais bien, et je suis rentré au noviciat des Jésuites en 1961, un peu grâce à saint Ignace, parce qu'on ne connaissait pas beaucoup les Jésuites à Bayonne, peut-être pas encore d'ailleurs, c'est pour ça que je suis là, pour en parler un peu. Et c'est surtout au Pays Basque Sud, comme on dit, qu'on le connaît. Mais c'est un peu à cause de lui, parce que j'avais fait des camps en vélo avec des élèves du Staritz, que j'ai appris à connaître un peu Loyola et saint Ignace. Alors, en ce moment, donc, je suis à Toulouse, après avoir été... c'est un retour à Toulouse, après avoir été aumônier d'étudiants dans les années 70 à Toulouse. Ensuite, j'ai surtout été dans les centres spirituels, c'est-à-dire à Notre-Dame-des-Coteaux, près de Toulouse, ensuite en Bretagne, à Penboc, et enfin à Morez, à Clamart. Et entre-temps, j'ai été à la revue Christus, donc une revue de spiritualité. J'ai passé ensuite 4 ans à Lille, dont je viens, il y a 2 mois. J'ai travaillé pour Vie chrétienne nationale à Lille. Donc vous voyez que je passe du nord au sud. Alors, je remercie l'équipe des Cotopaïs, Bayonne, il y en a une à Pau, il y en a une à Bayonne, qui m'a invité à faire cet exposé pour mieux connaître la spiritualité de saint Ignace et pour faire connaître aussi un peu les Cotopaïs. Que veut dire les Cotopaïs? Bien, c'est le jour où on a déménagé les anciens coteaux, où on recevait les gens pour des retraites et des sessions, que nous nous sommes installés à Toulouse, et au lieu de recevoir les gens, il n'y a pas de place, c'est nous qui sillonnons tout Midi-Pyrénées. Alors, Païs à l'Occitan, ça veut dire le pays, Cotopaïs, mais ça veut dire aussi, ce sont des initiales, il n'y en a pas beaucoup qui le savent, présence et action ignatienne dans le Sud. Voilà, Cotopaïs. Et j'y étais avec le père Malescourt, qui vient de décéder justement il y a 2 jours, le père Saint-As, qui était un peu plus loin, que certains connaissent. Le titre de cet exposé, c'est donc « Écouter la parole de Dieu et faire de ma vie une réponse », une petite introduction à la spiritualité ignatienne. Et n'hésitez pas à poser à la fin toutes les questions que vous voudrez, parce qu'il y a tellement de choses à dire que peut-être ça sera un peu rapide et un peu confus ou un peu dense. Alors la deuxième partie sera aussi intéressante que la première, c'est-à-dire les questions que vous pourrez poser en direct. Alors Ignace de Loyola, c'est un homme qui a voulu faire de grandes choses pour Dieu et qui, grâce à Dieu, y est arrivé. Mais pas de la manière qu'il imaginait au départ, mais plutôt en se laissant conduire par un Dieu qu'il a peu à peu appris à connaître, en se laissant conduire, alors qu'il avait un tempérament plutôt pour conduire les autres. C'est lui qui, à la fin de sa vie, a dit que le petit ordre religieux qu'il avait institué avec d'autres compagnons, eh bien, il ne fallait pas l'appeler ignatien, comme on dit les dominicains, les franciscains, non, mais compagnie de Jésus. Il voulait que ce soit vraiment Jésus, et c'était vrai, qui était le fondateur de cette petite compagnie, comme il disait. Alors, sa conversion s'est faite en deux temps, comme chez beaucoup d'ailleurs d'entre nous, peut-être, c'est jamais la première fois, il faut au moins deux fois pour faire une ligne droite. Hein. À Loyola d'abord, et ensuite à Manresa, un petit village catalan, près de Montserrat, Barcelone, où il s'était arrêté. Il croyait faire une courte halte et il est resté longtemps en allant vers Jérusalem, où il allait en pèlerinage. Alors il voulait faire de grandes choses, c'est-à-dire c'était un homme de grand désir. Aujourd'hui on parle beaucoup du désir. Si on n'a pas de désir, eh bien on ne peut rien faire. Et un grand désir à la recherche de la gloire. Mais sans doute un peu, malgré sa bonne volonté, d'abord de sa propre gloire, ce qu'il appellera plus tard la vaine gloire. Et puis petit à petit, il a désiré travailler à celle de Dieu, qui est la seule valable. La gloire en hébreu, c'est ce qui a du poids, c'est pas la vaine gloire. Et c'est pourquoi que sa devise sera AMDG, Ad Majorem Dei Gloriam, pour une plus grande gloire de Dieu. Et je crois que ça le résume assez bien. Alors vous connaissez un peu, et peut-être même beaucoup, son histoire, puisque Loyola n'est pas loin de Bayonne. Il était le dernier né d'une famille de petite noblesse, et il voulait sans doute s'illustrer à ses propres yeux et à ceux des hommes de son temps, peut-être parce qu'il était le dernier de la famille. Ses aînés étaient déjà partis au Mexique ou ailleurs, la conquista. Orphelin de mère très tôt, il n'a pratiquement pas connu sa mère, il a été placé par son père au service d'un duc, le duc de Najera, près de la cour d'Espagne, comme page d'abord, il fallait bien trouver un travail. Mais il n'était pas militaire. Souvent, il y a un cliché qui dit Saint-Ignace, soldat militaire. Non, pas du tout. Il était plutôt engagé comme trésorier, comptable, on dirait aujourd'hui trésorier payeur général à cette cour, petit à petit. Et il avait une belle écriture, il aimait la musique et les danses, de ce côté-là il était basque, il avait un goût pour l'exercice des armes, même s'il n'était pas militaire, la plupart des jeunes nobles à la cour s'exerçaient aux armes. Donc il avait en vue une belle carrière et une ambition toute humaine, mais Dieu s'est servi de cette ambition. Après tout, c'est pas mal d'avoir un désir, une ambition, pour le conduire à son service dans l'Église et le monde de son temps. Alors, blessé à Pampelune, où il était au service des rois catholiques, il a voulu résister aux Français, en surnombre, qui attaquaient la citadelle. Avec un ascendant sur les hommes qui restera toute sa vie une marque de sa personnalité, il persuade tous les chevaliers qui étaient avec lui, dans cette citadelle qu'on voit encore à Pampelune, de se défendre malgré tout, c'est-à-dire de résister, par fidélité peut-être, par loyalisme vis-à-vis de ses employeurs, par courage aussi certainement. Mais un boulet de canon français brisa la jambe d'Ignace et en même temps l'enthousiasme des combattants. Tous se rendent aussitôt. Lui s'était confessé, à l'époque on le pouvait, en cas de danger de péril de mort, à un laïc. Juste donc il sentait bien que l'issue risquait d'être fatale. En tous les cas, dès qu'il se rend, tous se rendent aussitôt aux assiégeants. Et les vainqueurs traite le blessé de façon courtoise et amicale et le reconduisent chez lui à Loyola. Après plusieurs interventions chirurgicales pour remettre la jambe d'aplomb, Ignace subit une longue convalescence clouée sur son lit. Alors désœuvré, il demande à sa belle-sœur, il était chez son frère dans cette maison de Loyola, des livres de chevalerie pour passer le temps. Il en était friand de l'idéal de la chevalerie, l'amour courtois, les armes. Mais on ne trouve dans la maison de Loyola, j'hésite à dire le château, c'est plutôt une maison forte, que deux livres. C'était à peine le début de l'imprimerie d'ailleurs. La vie du Christ, d'un Chartreux, Ludolphe le Chartreux, qui a joué un grand rôle au Moyen-Âge et un peu plus tard, et La légende de la vie des saints, traduite en espagnol. C'est à cette occasion que s'opère en lui une expérience spirituelle déterminante qu'il va raconter plus tard, à la fin de sa vie, à un compagnon qui le lui avait demandé. Et ce compagnon avait une bonne mémoire. Tous les soirs, Ignace, qui s'était d'abord fait prier, parce qu'il disait « j'avais pas envie de raconter sa vie », eh bien, il racontait une bribe de sa vie, et l'autre allait noter immédiatement. C'est resté sous le titre « Le récit du pèlerin », car c'est ainsi qu'Ignace s'appelait au départ. Donc, il a raconté cette conversion, au fond, qui s'est faite de façon très ténue à ce compagnon. D'une part, disait-il, il rêve des heures entières aux exploits chevaleresques qu'il ferait pour se distinguer au service de la dame de ses rêves. Voilà. Une dame de haute condition, ni comtesse, ni duchesse, mais d'un plus haut rang encore. Il se demande quelle pièce de verre il va lui dire, quel fait d'armes il va opérer pour elle. Peut-être pensait-il à la fille de Charles Quint, peut-être. Sans doute rêvait-il. Il avait beau avoir quelques titres de noblesse, cette dame imaginaire ou réelle dépassait largement sa condition. Existait-elle seulement? On ne sait pas exactement de qui il s'agit, en dehors de son imagination. En tout cas, il se délectait, dit-il, et rêvait des heures entières de cette conquête, voilà, chevaleresque. Mais à d'autres moments, fatigué, il lisait la vie du Christ dans le livre que sa belle-sœur lui avait donné, puis celle des saints, et il était consolé par les pensées qui naissaient de cette lecture. Il envisageait alors des choses difficiles, d'aller nu-pied à Jérusalem, à ne manger que des herbes, et faire toutes les autres austérités qu'il voyait avoir été faites par les saints. Ce qu'a fait saint François, pourquoi ne le ferais-je pas? Et ce qu'a fait saint Dominique, pourquoi pas moi? Se disait-il. Ouais. Donc désir encore ambigu, les exploits qu'il voulait faire au service de la dame, il veut les faire désormais au service de Dieu. Mais c'est encore de façon assez rivale, hein, comme saint François, peut-être un peu mieux, comme saint Dominique, peut-être un peu mieux. Donc son désir de faire mieux, hein, peut-être mieux que les autres, d'aller jusqu'au bout, reste très vivant. En tous les cas, il va remarquer une différence entre ses états d'âme. Après les pensées qui naissent, d'une part, de ses rêves de séduction mondaine, la dame, et d'autre part, de ses pensées, après avoir lu les évangiles et la vie de Jésus. Écoutons ce qu'il nous dit. « Quand je pensais à ce qui est du monde, je m'y délectais, mais quand ensuite, fatigué, je le laissais, je me trouvais sec et mécontent. Mais quand je pensais aller nu-pied à Jérusalem, à ne manger que des herbes, à faire toutes les autres austérités que je voyais avoir été faites par les saints, non seulement j'étais consolé quand je me trouvais dans de telles pensées, mais encore, après les avoir laissées, je restais content et allègre. » Autrement dit, il fait un lien entre, d'une part, la délectation et le plaisir, une distinction en tous les cas, et puis la consolation qui dure. Voilà, il remarque ça. On pourrait gloser en disant, d'un côté, c'est le plaisir. Le plaisir n'est pas défendu, mais plaisir d'amour ne dure guère, comme on dit. C'était sans doute pas sa vocation. Ça peut être la vocation d'un bon nombre d'hommes et de femmes, puisque Dieu a créé l'homme et la femme, et que le mariage est un grand sacrement. Mais il était appelé à autre chose, plutôt à la joie et à la consolation, comme il dit, une joie profonde. Alors la joie implique le plaisir, mais le plaisir n'implique pas toujours la joie. Donc il commence à s'étonner de cette différence. Et alors il poursuit, mais je ne faisais pas attention à cela et je ne m'arrêtais pas à peser cette différence jusqu'à ce qu'une fois mes yeux s'ouvrirent un peu. Je commençai à m'étonner de cette diversité et à faire réflexion sur elle. Saisissant par expérience qu'après certaines pensées, je restais triste et après d'autres allègre, j'en vins peu à peu à connaître la diversité des esprits qui m'agitaient, l'un du démon, l'autre de Dieu. Voilà ce qu'il dit 40 ans après. Il analyse ce qu'il a vécu. Mais ça a été quelque chose d'important. Alors vous voyez que le discernement, c'est vraiment carré. Le démon, Dieu, à partir de cette différence. Donc ce n'est pas à partir des idées qu'il va commencer à discerner, mais à partir des motions intérieures. Il a eu une grande attention au mouvement intérieur qui se passait en lui, comme nous devons nous aussi avoir une attention au mouvement intérieur qui sont en nous. Et pour cela, il faut s'arrêter un peu. Sinon, avec le flux de la vie, tout est dans tout et inversement. Mais là, il s'est arrêté, à Pampelune. Peut-être qu'il n'avait pas cherché directement, mais il a été obligé de s'arrêter après cette blessure. Et c'est à partir de là qu'il va commencer à s'étonner de la différence entre, d'une part, l'imaginaire, les rêves au service de la dame, qui peut-être n'existait pas, et d'autre part, la consolation qui dure après qu'il ait pensé aller à Jérusalem, où a vécu le Christ, car le Christ a existé. Et le pays où il a vécu a existé, et il existe encore. D'autre part, on pourrait remarquer, d'un côté, il n'y a pas de livre, il rêve, et de l'autre, il y a des livres. C'est du réel. C'est peut-être le discernement entre l'imaginaire, les fantasmes, et c'est normal qu'on ait de l'imagination. Et pour Saint Ignace, l'imagination joue un grand rôle, y compris dans les exercices spirituels. Mais le problème, c'est d'arriver à discerner dans quel sens vont ces pensées. Les unes vont vers un certain plaisir, mais qui ne dure pas. Les autres vers une joie qui dure, une consolation. Donc ce n'est pas à partir des idées qu'il va discerner, c'est à partir des motions intérieures. Non pas des émotions, mais des motions, c'est-à-dire des petits mouvements intérieurs qui viennent peut-être de Dieu, peut-être de nous-mêmes. C'est par là que commence au fond la spiritualité ignatienne. C'est le béaba du discernement des esprits. Ce n'est pas lui qui l'a inventé. Elle existe depuis l'origine, depuis Adam et Ève. Voilà. Ils se sont trompés d'arbre, il fallait bien discerner. Mais n'empêche que c'est là que ça commence, le discernement. Est-ce qu'il faut faire confiance à Dieu ou au serpent rusé qui parle à la place de Dieu? Voilà. Saint Paul en parle aussi, du discernement des esprits. C'est la base de toute la théologie de Saint Paul, pourrait-on dire. Les fruits de l'esprit sont paix, charité, confiance dans les autres, etc. Au contraire, tristesse, absence de paix, eh bien, c'est le contraire, c'est le discernement du mauvais esprit. Le principe de discernement est donc placé. Et le présupposé du discernement des esprits, c'est que la joie et l'allégresse ont leur source en Dieu. Dieu est du côté de la paix et de la joie. Il est le Créateur et il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Et tout ce qui va dans le sens de cette source nous donne paix et joie, amitié avec Dieu. Au contraire, l'esprit de tristesse, au contraire, n'a pas sa source en Dieu. Il n'a pas forcément sa source dans le démon non plus. Ignace est un peu carré à la fin de sa vie qui dit « Dieu, le démon ». Voilà. Mais je crois qu'il a raison, mais enfin c'est 40 ans après qu'il dit ça. Mais il peut venir, tout ça, il ne faut pas voir le diable partout, mais il peut venir simplement de nous-mêmes et de notre résistance à cet esprit de Dieu qui veut notre joie, notre paix, notre dynamisme vital. Ça veut dire la tristesse que je n'ai pas encore trouvé la source, car au fond de notre cœur, il y a une source. Et comme dit saint Augustin, tu nous as créés pour toi, nous sommes faits pour Dieu. Notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose pas en Dieu. La tristesse, on l'a par exemple, un exemple célèbre dans les évangiles, lorsque l'homme riche demande à Jésus « Que me faut-il faire pour avoir la vie éternelle ?» Donc il a un grand désir. Il ne se contente pas de ce qu'il a, il a raison, cet homme riche. Alors Jésus lui dit « Va, vends tous tes biens aux pauvres, puis viens et suis-moi. » Et c'est là qu'il y a cet obstacle, cette résistance, alors que son désir, c'est d'aller vers la vie éternelle. Eh bien, il s'en va tout triste parce qu'il avait de grands biens. Voilà. Il s'en va tout triste. Donc d'un côté la tristesse, ça ne veut pas dire que la joie est toujours facile. Si on se met du côté des apôtres, par exemple, on nous dit dans les Actes des apôtres, les apôtres étaient remplis de joie après avoir subi des mauvais traitements par amour du Christ. Ils sont rejetés par la synagogue, mais ils sont dans la joie. Donc, consolation et joie, ce n'est pas forcément tout bête dans l'huile, tout est facile. Il peut y avoir, et il y a souvent des difficultés, mais le mouvement va vers la vie. La tristesse, au contraire, le mouvement ne va pas vers la vie. Et c'est pour ça qu'on reste triste. Alors voilà la première expérience spirituelle qu'a fait saint Ignace. Vous ne voyez pas que c'est quelque chose d'extrêmement mystique, c'est très simple. Il lit, il rêve et il fait des différences. Tant qu'on ne voit pas de différence, on ne peut pas discerner. Puisque discerner, ça veut dire séparer, hein, discriminer. Et cette expérience de discernement va alors propulser Ignace vers une aventure extraordinaire, une folle aventure à la suite du Christ. Il va réaliser ce qu'il a projeté, c'est-à-dire aller à Jérusalem. Il va y arriver, c'est du réel, même s'il ne sera pas toujours facile et qu'il y aura beaucoup d'aventures. Donc il va aller dans ce pays de Jérusalem où il veut connaître le lieu où Jésus a vécu. Mais sur le chemin de Jérusalem, il va s'arrêter, donc, comme nous le disions au début, dans ce petit village de Manres, qu'on peut encore visiter. C'est devenu une grande ville, d'ailleurs, pas loin de Barcelone. Pas loin de Montserrat, le monastère bénédictin, où il a été aussi, parce qu'il aimait beaucoup la liturgie, écouter les offices. Et c'est à Manres que va se poursuivre sa conversion, sa deuxième conversion. Il croyait qu'il était arrivé. L'Oyonnax n'est qu'un point de départ. C'est à Manres, au fond, il appellera plus tard sa primitive église, qu'il a vraiment connu Dieu. C'est là que Dieu, dans sa miséricorde, dit-il, lui a ouvert les yeux pour la deuxième fois. La première fois, vous vous rappelez, ses yeux commencent un peu à s'ouvrir, il voit des différences entre tristesse et joie. Eh bien là, c'est Dieu lui-même qui va lui ouvrir les yeux, parce qu'il était vraiment perdu. C'est là qu'il a fait sa retraite, au fond, et que sont nés les exercices spirituels, les petits livres que nous connaissons. Dieu l'enseignait, dit-il plus tard, comme un maître d'école enseigne un enfant, tantôt avec douceur, pour le pénétrer de la vérité, tantôt avec force, et parfois même rudesse, pour le corriger, mais corriger toujours avec amour. C'est à Manres que Ignace a eu une vision, dit-il, architectonique du monde. Architectonique, c'est-à-dire comme un architecte. Il a vu les relations entre le Créateur et le monde, entre les relations humaines et le sens de l'homme. C'était pas forcément des grandes visions mystiques, mais une illumination de son intelligence. Par exemple, comment Dieu avait créé le monde, là c'est davantage mystique, comment Dieu, avec de la lumière, crée le monde. Dans un langage très pauvre, il nous parle de ça, mais en même temps on sent bien qu'il a perçu des réalités invisibles. La Sainte Trinité, comme trois touches d'orgue, lorsqu'il allait à la cathédrale de Manres, les trois touches d'orgue, il était sensible à la musique, c'est-à-dire harmoniser, une belle harmonie, la Sainte Trinité, l'humanité du Christ. La Vierge. Donc ce fut vraiment une grâce de Dieu, Manres, sa primitive église. Et c'était important parce qu'il était mal parti. Il faisait beaucoup de pénitence, excès de pénitence. Il ne mangeait pas, il ne dormait pas, très peu. Prière constante, plus de 7 heures par jour. Hallucinations qui arrivent, scrupules de sa vie passée, qu'il voulait confesser indéfiniment. Envie de tout laisser tomber, jusqu'à la tentation du suicide. Voilà. Il en est échappé de cette tentation en disant « Non Seigneur, je ne veux rien faire qui vous offense ». Il sentait que c'était un commandement de Dieu pour lui. Mais vous voyez que ça a été loin. Jusqu'à ce qu'il rencontre au détour d'un chemin, près de la rivière Cardonnaire, qui existe toujours, qui coule au pied de Manres, une croix où était le Christ cloué sur la croix. Et à ce moment-là, les hallucinations, en particulier, il avait une hallucination qui revenait souvent, l'image d'un serpent avec beaucoup d'yeux magnifiques, qui le séduisaient, qui lui donnaient du plaisir, là aussi. Vous voyez que le plaisir revient. Eh bien, ce jour-là, par rapport à la croix, bien, la figure du serpent était beaucoup moins hallucinante et avait perdu sa beauté. Certains disent, au fond, c'était le démon de la vanité. Il se disait, voilà, je deviens un grand saint, je fais beaucoup de pénitence. Alors, il y a toujours une tentation. Il y a une tentation archaïque, le serpent de la Genèse, le dragon de l'Apocalypse, hein, c'est de l'archéologie, tout ça. Eh bien, il était halluciné. Et c'est le Christ en croix qui lui a permis de sortir et de revenir au réel. Car, on l'a vu, celui qui a été transpercé sur la croix, celui qu'il a vu en rend témoignage, nous dit saint Jean. Il a existé. L'homme Dieu défiguré, qui a offert sa vie pour les pécheurs, à commencer par Ignace, et qui est toujours vivant pour les siècles des siècles, qui nous appelle à sa suite, chacun avec notre grâce, pour aimer davantage et pour construire avec lui le royaume de Dieu. Telle a été la conversion d'Ignace à Manresa. Il a découvert un Dieu qu'il ne connaissait pas bien. Il voulait faire des exploits encore. Le surmoi d'Ignace, c'est certainement quelqu'un qui aurait pu faire beaucoup de choses, dangereuses d'ailleurs peut-être. Il avait un fort désir, un fort tempérament. Bien là, devant le Christ en croix, il a trouvé son humanité. Alors à partir de là, eh bien, il faudrait lire le récit de sa vie, qui a paru dans certaines collections. Ça se lit comme, presque comme un roman. Donc c'est ce qui a été dicté par Ignace à la fin de sa vie à son compagnon. Il va aller en faire, genre je vous épargne les péripéties. Il arrive à Jérusalem, après bien des aventures. En particulier, il fallait traverser l'Italie à pied, bien sûr. Il boitait depuis son. Il y avait les armées espagnoles d'un côté, les armées françaises de l'autre. Lui, il était du côté espagnol. Alors, il tombe un jour sur l'armée française. Et heureusement, je vous le dis à vous, puisque vous êtes de Bayonne, eh bien, il tombe sur un officier qui, d'abord, peut le mettre en prison et le torturer. Mais il était de Bayonne. Alors, il a laissé partir. Voilà. Alors, tantôt, c'était l'armée espagnole, tantôt l'armée française. Alors, il arrive à Jérusalem, le pays de Jésus. Et il aurait voulu y rester. Il a voulu y rester pour prier, peut-être pour convertir les infidèles, parce qu'il y avait des Turcs à l'époque. C'était les Turcs qui détenaient la Terre Sainte. Il aurait voulu y rester, mais les franciscains qui régissaient la Terre Sainte, de la part du pape et du Vatican, le lui interdisent. Il lui montre même une bulle du pape qui interdit aux chrétiens de rester à Jérusalem. Parce que s'ils sont pris par les Turcs, il va falloir payer beaucoup de rançons. Ils auraient été otages. C'est pour ça que certains disent avec malice, bien c'est grâce aux franciscains que les jésuites sont arrivés à terme. Puisque c'est grâce aux franciscains qu'Ignace a dû quitter la Terre Sainte. Il ne restait qu'un mois finalement. Mais c'est sûr que ça a été important. Quand on fait les exercices spirituels, au fond, les exercices spirituels sont très simples. L'essentiel, c'est de contempler la vie du Christ, afin de mieux l'aimer et le suivre. Donc, depuis le début, l'Annonciation, la Nativité, la vie cachée, la vie publique, la Passion et la Résurrection. Donc, ça restera toujours un moment important, ce passage en Terre Sainte, mais en même temps, ça ne dure qu'un mois. Alors, que faire ? Son désir profond, c'est toujours d'aider les âmes, comme il dit, de transmettre à d'autres la lumière qu'il a reçue, à Manresa et à l'au-delà, à dire le sens de la vie. Et il le dira dans la préface du petit livre des exercices, l'homme est créé pour louer, respecter et servir Dieu, et ainsi sauver son âme. Tout le reste a été créé pour aider l'homme à arriver à cette fin. Il faut donc s'en servir, puisque tout est bon, les talents, finalement. Il a été très sensible à la parabole des talents. Mais comment faire pour transmettre sa flamme ? Pour cela, il faut parler le langage des hommes. Or, lui, le gentilhomme, mondain, certainement intelligent, mais il n'a pas encore une grande culture chrétienne. Tout ce qu'il a appris du christianisme, c'était à Loyola. Civilisation chrétienne, certes. Alors, il décide de faire des études. Et à plus de 30 ans, Eh bien, il va se mettre humblement à l'étude, à Barcelone d'abord, à Alcalá, Salamanque, avec des enfants ou des jeunes bien plus jeunes que lui. Et comme la langue de l'Église, c'est le latin, ben, il commence à apprendre Rosa Rosé à Barcelone. En même temps, il donne les exercices spirituels, peut-être pas sous la forme que nous connaissons maintenant, mais l'essentiel y est, dans les rues, à Alcalá, Salamanque, à tel point que l'Inquisition, qui veille, le menace de le mettre en prison. D'ailleurs, il passera un certain temps en prison. C'est les Dominicains, cette fois, qui le mettent en prison, parce que c'était eux les chefs de l'Inquisition. À l'effet, il lui demande, mais ce que vous dites là dans les rues, ça vient de l'Esprit Saint ou ça vient d'une science acquise? Alors Ignace sent bien le piège, science acquise. Il n'a pas étudié la théologie. Comment peut-il parler du péché mortel ou véniel? Et s'il dit l'Esprit Saint, on va le prendre pour un illuminé, parce qu'il y avait beaucoup d'illuminés à l'époque que l'Inquisition pourchassait. Alors il dit, mais à vous de voir. Mais comme on lui interdit de continuer à donner les exercices à des gens très simples dans les rues, ouais, eh bien, il se dit, eh bien, je vais aller faire des études à Paris. Paris était en effet la meilleure université de l'époque. Et il est parti à pied à Paris. Et c'est là qu'il a appris les rudiments, pas seulement du latin, ça commençait à venir, la philosophie, la théologie. Et il n'a pas été un si mauvais élève que ça, puisqu'il est sorti 33e sur 250 étudiants. On a encore les archives et on sait encore l'endroit où il a passé ses examens. Il est devenu maître S.A., comme on dit. Voilà. Mais ce qui est plus important, c'est que c'est là qu'il a rencontré d'autres étudiants venus à Paris comme lui, bien, soit pour devenir prêtre, soit pour faire une carrière comme François-Xavier. Voilà. François-Xavier, c'est pas qu'il voulait vraiment être clerc, mais il se disait qu'il pouvait gagner un bénéfice avec ça, devenir chanoine de la cathédrale de Pampelune, par exemple. Alors François-Xavier, sportif, meilleur sauteur en hauteur de la ville de Paris, il se moquait beaucoup d'Ignace au début, qui boitait, bien plus vieux que lui. Puis surtout, il était du côté, lui, des Navarrais, contre qui Ignace avait combattu au nom des rois d'Espagne. Alors vous voyez qu'il y avait tout pour les séparer. Et petit à petit, eh bien, Ignace a conquis, par son humilité, François-Xavier. Il l'a amené à faire les exercices spirituels pendant un mois. Et c'est ainsi que François-Xavier est devenu l'un des premiers compagnons d'Ignace. Mais il y en a eu neuf, dont Pierre Favre, un Savoyard, un Français, quelques Espagnols. C'est la première compagnie de Jésus. Mais ce n'est pas encore la compagnie de Jésus. Ce n'est pas un ordre religieux. Simplement, au cours de leurs études, ils vont aller une fois par an à Montmartre, dans ce petit endroit qu'on a repéré à peu près chaque année, pour renouveler des vœux qu'ils vont faire. Ces vœux, c'est un, le vœu de chasteté, et l'autre, le vœu d'aller à Jérusalem. Vous voyez qu'Ignace avait de la suite dans les idées, on l'avait chassé, mais il disait, bon, c'est peut-être là qu'il faut revenir, hein, d'aller à Jérusalem, si c'était possible. Sinon, ben, ils iraient trouver le pape, après avoir passé leurs examens et être ordonnés, parce que Ignace n'était pas prêtre, il n'y en avait qu'un qui était prêtre à l'époque. Et pourquoi le pape? Eh bien, parce que c'était lui qui était le plus au courant des besoins de la chrétienté. Et c'est ce qui explique le quatrième vœu que font les jésuites, les prophètes jésuites, au pape pour les missions. Et il se trouve que cette année-là, précisément, il n'y avait pas de bateau en partance pour Jérusalem, parce qu'il y avait la guerre entre les Vénitiens et les Turcs. Alors ils vont à Venise, ils se retrouvent à Venise. Entre-temps, Ignace est revenu à Loyola, parce qu'on lui a conseillé l'air natal pour raison de santé. Il va faire beaucoup de réformes, il va vivre dans un hospice, il ne faut même pas revenir dans son château. Donc il se retrouve à Venise, et comme il n'y a pas de bateau, eh bien, ils vont s'offrir au pape pour lui demander où aller. Et le pape sera très heureux de recevoir ces jeunes ou moins jeunes théologiens. Il va les utiliser très vite, les uns au Concile de Trente pour aider les évêques, les autres seront envoyés dans les Indes, comme François-Xavier, Inde orientale ou occidentale, Amérique du Sud ou bien en Inde, Japon, même, ira François-Xavier. L'Allemagne protestante, Pierre Favre va parcourir toutes les rues d'Allemagne, et puis bien sûr à Rome. Donc, à peine réunis, ils sont dispersés à cause de ce vœu. Mais en même temps, ce n'est pas un ordre religieux. Ils sont autonomes. Et ils se posent la question, faut-il obéir à l'un d'entre nous? C'est-à-dire, finalement, faire un ordre religieux. Or, les ordres religieux n'avaient pas une grande réputation à cette époque. Alors, ils vont passer plusieurs soirées à délibérer entre eux, après avoir prêché toute la journée, fait le catéchisme, travaillé dans les hôpitaux. Ils reviennent le soir et ils délibèrent entre eux pour discerner si, oui ou non, ils allaient obéir à l'un d'entre eux, c'est-à-dire pratiquement à former un nouvel ordre religieux. Et ils finissent par dire oui, après pas mal d'hésitations. Ils disent oui, et ils vont élire Ignace comme premier supérieur général de la compagnie naissante. Ils vont se présenter au pape. Et Saint-Ignace va d'abord refuser. Il va faire revoter. Il va dire des messes. Il va faire prier. Parce qu'il ne veut pas être élu général. Pourquoi? Peut-être parce qu'il a le souvenir des choses pas claires qu'il a faites à Loyola. Il se dit, si je suis élu supérieur général, eh bien, la réputation de la première compagnie ne va pas être très bonne. Il avait quand même fait pas mal de frasques à Loyola quand il était jeune. Alors finalement, il va se confesser à un capucin, je crois, qui lui dit, il ne faut pas hésiter, c'est la volonté de Dieu. Alors il accepte et il sera le premier supérieur général de la compagnie naissante, avec autorité, mais en même temps avec beaucoup de discernement et de douceur. Voilà, et Ignace meurt en 1556, à peu près à 65 ans. Il va faire dire à son secrétaire d'aller demander la bénédiction du pape, qui est Paul IV, un pape avec qui il ne s'était pas très bien entendu au début. Il a dit, c'est le pape. Et il s'était incliné. Paul IV, qui était un Italien qui ne pouvait pas sentir les Espagnols et qui avait fait, par exemple, fouiller la maison d'Ignace en disant qu'il était un espion. Voilà. Mais il va recevoir la bénédiction du pape parce qu'il meurt avant et il meurt même sans les derniers sacrements. Voilà. Ignace est mort de façon très obscure. Il n'a même pas désigné le successeur, c'était pas à lui à le faire, c'était la compagnie de Jésus, disait-il, c'est pas la mienne. À la fin de sa vie d'Ignace, il y avait 1000 jésuites dans le monde, donc de beaucoup de nationalités. Le sommet du nombre des jésuites, c'était autour du concile 36 000. Et puis, on est retombé à la moitié. En ce moment, c'est 18 000, la moitié. Mais il n'y a pas que les jésuites qui sont le fruit de toute cette conversion d'Ignace. Eh bien, il y a ce qu'on appelle la famille ignatienne, c'est-à-dire il y a des laïcs. Yvette en a parlé, les laïcs de vie chrétienne, une association de laïcs qui est internationale et qui vit de la spiritualité ignatienne. Et puis il y a aussi beaucoup de religieuses de la famille ignatienne. Il n'y a pas de jésuitesse, mais il y a beaucoup de religieuses qui s'inspirent de la spiritualité ignatienne. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la famille ignatienne. Alors pour conclure, quelques traits de la spiritualité ignatienne. J'ai fait là un récit. Au fond, c'est beaucoup mieux un récit que des longues discussions. Récit de la naissance de la compagnie. Quelques traits. Premièrement, je dirais que ce qui est important pour Ignace et à sa suite, c'est pour la vie chrétienne, c'est d'écouter ce que Dieu nous dit à travers notre vie intérieure, vie spirituelle, et de lui faire une réponse, faire de notre vie une réponse, de façon gratuite, pour une plus grande gloire de Dieu. Alors, Ignace ne dit pas la plus grande gloire de Dieu, ça serait un superlatif. C'est plutôt un comparatif, une plus grande gloire de Dieu, c'est-à-dire un peu plus. Dieu a tellement fait pour nous, création, rédemption, don particulier, qu'un cœur aimant et généreux doit lui répondre gratuitement, car ce qu'a fait Dieu, c'est gratuit, c'est par amour. Donc, non pas par devoir, mais librement, ça en vaut la peine. écouter la parole de Dieu, donc pour ça, s'arrêter un peu, ne serait-ce qu'à Pampelune, il a été obligé de s'arrêter. Mais il y a aussi des gens, Kaufmann par exemple, qui a été otage au Liban, il dit que sa chance, bon c'était difficile quand même, hein, il est resté longtemps otage, eh bien c'est que ses gardiens lui ont pas donné un Coran, mais un évangile. Il a pu lire l'évangile, lui qui n'était pas très chrétien, et c'est cet arrêt qui lui a permis d'avancer. Donc premier trait, écouter la parole de Dieu et faire de notre vie une réponse. Ce n'est pas simplement un spectacle extérieur. Deuxièmement, à travers un certain humanisme, c'est un trait, je crois, de la spiritualité ignatienne. Humanisme. L'homme est au centre du dessein bienveillant de Dieu. Et l'homme a du prix aux yeux de Dieu, quel qu'il soit. C'est un regard, au fond, assez optimiste que Ignace, les jésuites, les ignatiens portent sur les hommes. Un regard sympathique, on pourrait dire. Ignace arrive en effet au moment de la Renaissance. C'est le temps de l'humanisme. Le Moyen-Âge s'achève. Le Moyen-Âge, par certains côtés, était, avec toute sa grandeur, était peut-être plus pessimiste. Or, à la Renaissance, on retrouve les valeurs de sociétés qui n'étaient pas très chrétiennes, ou pas du tout, puisque c'était avant le Christ, c'est-à-dire, par exemple, la culture gréco-romaine. On revient à traduire le latin. On s'aperçoit que les anciens, eh bien, ils n'étaient pas chrétiens, mais ils avaient des valeurs. La culture, importance de la culture. Les Indiens, par exemple, le Paraguay, les fameuses réductions du Paraguay. Ces cultures à peine naissantes, mais elles sont en même temps riches. La Chine, François Xavier va s'arrêter à quelques kilomètres de la Chine, il va mourir sur l'île de Santiago, mais plus tard Ricci, au XVIIe siècle, jésuite italien, qui va aller en Chine, et qui va rencontrer l'empereur, lui offrir des instruments astronomiques, c'était un grand mathématicien, et il est encore très estimé des Chinois, c'est même l'un des rares Européens qui a sa tombe à Pékin. Reconnaissance de la valeur des sciences dites profanes, donc mathématiques, astronomie, l'art, le théâtre qui avait lieu dans les collèges jésuites. Les collèges, oui, Saint-Ignace n'y pensait pas au départ. Il était pour une évangélisation plus directe, chrétienne. Et puis c'est les premiers compagnons qui lui ont dit, mais les collèges c'est très important, parce qu'il y a toute une série de jeunes de classe moyenne, défavorisés, à moins d'être riche et d'avoir un percepteur, qui n'ont pas d'enseignement. Et c'est comme ça qu'Ignace a reconnu que les collèges étaient valables et qu'il y a eu beaucoup de collèges qui sont nés à son époque. On pourrait citer aussi dans cet esprit Teilhard de Chardin, qui est presque un contemporain, mais cette espèce d'optimisme qu'il avait sur l'évolution. On le lui a reproché d'ailleurs en disant qu'il n'avait pas assez le sens du péché. Mais quand même, quand on lit bien. Donc, amour de l'humanité, amour des hommes, comme Dieu a aimé les hommes, puisque dans l'incarnation, Dieu est venu chez les siens. Et pas seulement les élites. Il y a toujours eu chez Ignace et ses successeurs une attention aux plus pauvres. Ils essayaient à la fois d'être théologiens du Concile de Trente, puisqu'ils avaient fait des études, et de travailler dans les hôpitaux. Ils ont fait les deux dans la journée. Ou bien Saint-Pierre Claver, qui était un catalan, qui est parti au Venezuela, qui est devenu l'esclave des esclaves, des Noirs. Et il y a toujours eu cette coexistence chez beaucoup de jésuites entre l'option préférentielle pour les pauvres et le travail auprès des élites. Pourquoi ? Non pas parce que c'est des élites, mais parce que ça leur permet bien que le pouvoir descende un peu, la justice descende pour les gens qui sont moins favorisés. C'est comme ça que François Borgia, qui était quand même duc, père d'Espagne, une fois veuf, va rentrer dans la compagnie. Et lui, qui était un grand d'Espagne, eh bien, il va s'occuper lui aussi des pauvres, en devenant le troisième général des jésuites. Donc attention à l'humanisme, aux longues médiations. C'est-à-dire que ce n'est pas d'un seul coup qu'on convertit les gens de l'extérieur. Mais qu'il faut passer par les collèges, par les instituts pour les ingénieurs, les revues. Voilà, tout ça, ce n'est pas du temps perdu. Ça permet que le levain dans la pâte prenne. Donc, deuxièmement, donc, un certain humanisme. Troisièmement, il se passe un nouvel ordre religieux de plein vent dans la fondation des jésuites. C'est assez original parce que Ignace s'est battu pour ça. Il a tout fait pour que le pape autorise les jésuites à ne pas avoir d'office au cœur. Le cœur, les moines, ils sont astreints au cœur, 7 fois par jour. Mais Ignace dit, si on passe tout notre temps au cœur, eh bien, on ne peut plus annoncer l'évangile. Ils vont finir par accepter les différents papes. Donc, ce n'est plus une branche monastique. Ignace avait une grande estime pour les moines et pour les bénédictins à Montserrat ou ailleurs, ou les chartreux. Il a failli rentrer chez les chartreux à un moment. Il aimait beaucoup la liturgie, mais pour annoncer l'évangile, eh bien, il faut davantage de temps. Donc, les jésuites ne sont pas astreints à l'office du cœur. Donc, c'est une vie apostolique. Tout le monde est apostolique, bien sûr. Mais là, c'est quelque chose d'assez original. La compagnie sera mobile. Il ira partout où on a besoin d'elle, où le pape les enverra. Et c'est un peu grâce à ce modèle, d'ailleurs, qu'il y a eu beaucoup de religieuses qui sont devenues des ordres apostoliques, alors qu'elles étaient dans les couvents. Impossible d'enseigner, impossible de sortir des couvents. Bien, sur ce modèle, beaucoup d'ordres religieux féminins vont se créer. Dernier point, numéro 4. Donc, un trait de la spiritualité ignatienne, pour conclure. C'est une suite du Christ, au fond, qu'a initié Saint Ignace, tout simplement. Le Christ pauvre, humilié, mais pas une fausse humilité, à sa juste place, efficace, vivant. Ce que le Christ a cherché, c'est la gloire de son Père, et c'est l'homme vivant. C'est pas sa propre gloire, c'est la gloire de son Père. Donc, la spiritualité ignatienne est au fond une spiritualité chrétienne, tout simplement. C'est l'union au Christ dans son mystère pascal, pour la pleine manifestation du royaume de Dieu ici, et cela à travers les œuvres. On a souvent dit que la spiritualité d'Ignace n'est pas une spiritualité nuptiale, comme Saint Jean de la Croix, les carmélites, l'épouse, l'époux, qui est une très grande courant spirituel, et c'est plutôt une spiritualité, je dirais même pas d'action, mais de service, parce que l'action, on peut se noyer dans l'action, de service de Dieu pour qu'il soit mieux connu. La dernière contemplation d'Ignace dans les exercices, c'est la contemplation pour obtenir l'amour. Voilà. Et l'amour, dit-il, doit se mettre dans les œuvres plus que dans les paroles. Dans les paroles aussi, c'est important de parler, mais dans les œuvres plus que dans les paroles. Dieu a préparé les œuvres que nous avons à faire, dit l'Épître aux Éphésiens, chapitre 2, pour que nous nous y engagions. Parfois, on s'angoisse en disant, mais qu'est-ce qu'on va faire? Où va l'Église? Ben, il y a des œuvres, il ne faut pas être trop inquiet. Dieu prépare, c'est à nous de les discerner, des œuvres bonnes à faire. Pas des bonnes œuvres, on dirait, mais des œuvres bonnes. Voilà. Et en conclusion finale, donc, je dirais, ça c'est le père Haït, qui était de la région aussi, un Béarnais, qui me le disait une fois à Toulouse, il est devenu cardinal depuis. Au fond, ce qui caractérise Ignace, c'est un amour très personnel du Christ. Alors vous me direz, mais tous les chrétiens, c'est le cas. Oui, c'est vrai. Mais ce qui le caractérise, c'est cet amour très personnel qui va lui permettre de répondre à sa vocation propre. Ignace personnalise beaucoup les choses. Et si on fait les exercices, ce n'est pas pour découvrir notre vocation en général, mais notre vocation personnelle.
Avec Saint Ignace de Loyola, écouter la parole de Dieu et faire de ma vie une réponse, vous venez de suivre une conférence du Père Bernard Mendibour, enregistrée le 26 novembre 2010 à la maison diocésaine de Bayonne. Nous avons rediffusé cette conférence pour lui rendre hommage, puisque le Père Bernard Mendibour, originaire d'Hasparren, s'est éteint à l'âge de 83 ans à la maison de retraite jésuite de Pau le 26 janvier 2022.